Vatican News, le journal, il est 18h.
Omar El Béchir devant les juges depuis ce matin. Khartoum, celui qui a dirigé sans partage le Soudan pendant 30 ans, est accusé de corruption. L'opposition burundaise ne connaît aucun répit. Un militant du Conseil national pour la liberté a été tué la nuit dernière par des hommes armés de gourdins et de machettes. Aucune certitude sur les auteurs de ce crime. Deux navires d'ONG errent en Méditerranée, au large des côtes italiennes, avec à leur bord plus de 450 personnes. Les conditions sanitaires se détériorent jour après jour, comme nous le racontera le chargé de communication de MSF Italie, l'Ocean Viking. Vladimir Poutine, reçu en ce moment même par Emmanuel Macron à quelques jours du sommet du G7 de Biarritz. L'objectif est de maintenir le contact malgré l'exclusion de la Russie du G7.
Le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. On devrait connaître aujourd'hui au Soudan la composition du Conseil souverain chargé de mener la transition politique dans le pays. Formé de 6 civils et de 5 militaires, il devra superviser la formation d'une administration civile, notamment du gouvernement. Cette nouvelle instance dirigeante est le fruit de l'accord signé samedi dans un Soudan, semble-t-il, en liesse et en présence de nombreux dignitaires étrangers par les chefs du mouvement de contestation et de la junte au pouvoir depuis la chute d'Omar El-Béchir le 11 avril dernier. L'ancien dirigeant du Soudan est d'ailleurs apparu à Khartoum ce matin. Son procès en effet pour corruption s'est finalement ouvert. Marie Duhamel.
4 mois après sa chute, on a vu Omar El-Béchir. L'ancien homme fort du Soudan, il le dirigea d'une main de fer pendant une trentaine d'années, a pris place dans une cage en métal, mal rasée, vêtue d'une robe blanche traditionnelle. Âgé de 75 ans, il fait face à plusieurs chefs d'accusation qui lui ont été signifiés. Corruption, trafic d'influence, possession de devises étrangères. Au moment de son interpellation, quelques 113 millions de dollars ont en effet été saisis en liquide dans la résidence de l'ancien chef d'État à Khartoum. Des liasses de billets avaient été filmés alors par la télévision publique. Mais d'où vient cet argent? Selon le brigadier en charge de l'instruction, Omar El-Béchir a reconnu avoir reçu de l'argent saoudien en espèces, 35 puis 30 millions de dollars de l'ancien roi Abdallah, puis 25 millions de l'actuel prince héritier Mohamed Ben Salman, une somme apparemment reçue à titre personnel hors budget de l'État, a expliqué l'enquêteur, qui aurait partiellement été dépensée à sa guise, on ne sait pas à quelle fin. Tout au long des 3 heures d'audience, l'accusé est apparu calme. Il devrait à nouveau comparaître dans 5 jours.
Marie Duhamel. Et s'il est clair qu'Omar El-Béchir est poursuivi pour des faits de corruption, on ne sait pas en revanche s'il devra répondre des meurtres commis lors de la répression des manifestations de ces derniers mois. Meurtres pour lesquels il a été inculpé en mai. L'ONG Amnesty International demande aux nouvelles autorités de signer le statut de Rome, ce qui permettrait également une extradition d'Omar El-Béchir vers La Haye, où il est poursuivi pour crimes de guerre au Darfour par la Cour pénale internationale. Au Burundi, la répression contre l'opposition ne faiblit pas à l'approche des élections de 2020. Un militant du Conseil national pour la liberté, le CNL, a été tué la nuit dernière et 6 autres grièvement blessés lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés de machettes et de gourdins. Les opposants qui venaient d'inaugurer une permanence au nord du Burundi affirment que ceux qui les ont attaqués sont des jeunes du parti au pouvoir, souvent cités dans des rapports des organisations internationales. Le ministère burundais de l'Intérieur affirme que ce sont des malfaiteurs, au contraire, qu'il faut punir. Les précisions à Bujumbura, Domin Nyunkuru.
Le porte-parole du ministère de l'Intérieur confirme l'attaque contre les membres du principal parti de l'opposition. Malgré les accusations de cette dernière, cette autorité en charge de la gestion des partis politiques dit que cette attaque contre les opposants a été menée par des fauteurs de troubles et non des jeunes du parti au pouvoir, souvent cités dans des rapports des organisations internationales. Alors qu'ils rentraient de l'inauguration d'une permanence, plus de 300 opposants se sont vus attaqués par des gens munis de machettes et de gourdins. Un d'eux est mort sur le champ, 10 autres ont été grièvement blessés. Le leader du parti principal de l'opposition demande à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe au Burundi à 7 mois des élections générales. 3 présumés coupables ont été arrêtés. Le ministère de l'Intérieur appelle à la justice de mener minutieusement les enquêtes. Depuis Bujumbura, Aubin Nyunguru, Vatican News.
Où vont débarquer les 107 personnes récupérées en mer il y a 17 jours par le navire espagnol Open Arms? L'ONG espagnole demande depuis plusieurs jours l'autorisation d'accoster en Italie sur l'île de Lampedusa, la plus proche, alors que la situation sanitaire à bord ne cesse de se dégrader. Mais le gouvernement italien refuse et l'ONG, de son côté, a, elle, repoussé l'offre de l'Espagne d'accueillir le bateau, prétextant que le port d'Algeciras était trop loin, comme d'ailleurs l'archipel des Baléares, l'autre proposition faite par Madrid. Quant à l'Ocean Viking, le navire de Médecins Sans Frontières et de SOS Méditerranée, il navigue sans objectif entre Malte et l'Italie en espérant que la situation se débloque pour les 356 migrants qui se trouvent à bord depuis 11 jours. Malte et l'Italie ont déjà été sollicités, la Valette a refusé tout débarquement, l'Italie n'a pas encore formellement refusé, mais le commandant du navire prend soin de ne pas entrer dans les eaux italiennes sous peine d'amende salée et de voir son embarcation confisquée. François Dumont est en charge de la communication de MSF en Italie. Il revient sur les conditions à bord de l'Ocean Viking.
On leur explique la situation en Europe. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense, au niveau de la politique et des bras de fer politiques qui sont en train de se jouer sur eux. Mais on essaie de leur donner un maximum d'accès à l'information et surtout la possibilité de parler, de raconter ce qu'ils ont vécu, de s'exprimer et surtout de vivre cette situation qui est une espèce d'entre-deux très difficile qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui sans savoir exactement ce qui va se passer. Souvent, leurs conditions psychologiques vont s'aggraver ou s'aggravent parce que, justement, il n'y a pas de perspective claire. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas. On n'est pas en mesure de leur dire quand et comment ils vont pouvoir débarquer et se retrouver finalement en sécurité. C'est intéressant de noter, et très important d'ailleurs de noter que, selon les conventions internationales, un sauvetage, une opération de secours en mer, n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas eu un débarquement dans un port sûr. Voilà, c'est exactement la situation aujourd'hui à bord de l'Ocean Viking. C'est des personnes qui ne sont pas encore sauvées, c'est des personnes qui ont été sauvées du naufrage, mais qui ne sont pas encore arrivées en situation de protection, où ils ne peuvent pas encore recevoir l'assistance à laquelle ils ont droit.
François Dumont, en charge de la communication de Médecins Sans Frontières en Italie. Une bombe a explosé sans faire de victimes ce matin à Newton Butler, en Irlande du Nord, tout près de la frontière avec l'Irlande. La police locale suspecte un des groupes se réclamant de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Les policiers avaient été alertés dès samedi soir qu'un engin explosif avait été déposé dans la région et avait entamé des opérations de ratissage dès dimanche matin. La perspective du rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes à cause du Brexit a provoqué un regain d'activité des groupes liés à l'IRA. Le Brexit, Boris Johnson doit en parler cette semaine avec le président français et la chancelière allemande. En attendant, il a prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de ces entretiens. Il a cependant évoqué un souhait, celui de mettre fin immédiatement à la libre circulation des personnes en cas de Brexit sans accord le 31 octobre. Jusqu'à présent, il devait y avoir une période de transition permettant aux citoyens européens de se rendre au Royaume-Uni, d'y travailler et d'y étudier sans démarche particulière. Le nouveau système d'immigration est en cours d'élaboration. Vladimir Poutine, exclu du G7, se console en rencontrant aujourd'hui Emmanuel Macron. Le président russe est reçu en ce moment même par son homologue français sur la Côte d'Azur, quelques jours à peine avant le sommet du G7 du Biarritz, organisé par la France. Les deux hommes maintiennent le contact malgré les différends. Marie-Christine Bonzon.
Lors d'un point de presse conjoint, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entend travailler avec la Russie à ce qu'il a appelé la recomposition de l'ordre international, et ce, dans le contexte d'un multilatéralisme qui, selon le président français, est attaqué. Pour M. Macron, la France doit coopérer avec la Russie pour deux raisons majeures. D'une part, parce que la Russie est, selon le chef d'État français, absolument incontournable, et d'autre part, parce que la Russie est absolument européenne. À l'approche du sommet du G7 à Biarritz, une instance internationale à laquelle Vladimir Poutine n'est plus convié depuis son annexion de la Crimée en 2014, Emmanuel Macron entend se positionner comme un intermédiaire entre la Russie et les autres membres du G7, à commencer par les États-Unis, notamment sur plusieurs gros dossiers internationaux, de l'Ukraine à l'Iran, en passant par la Libye et la Syrie. Dans le dossier syrien, le président Macron entend demander à son homologue russe d'exercer son influence auprès de Bachar el-Assad pour faire cesser l'offensive du régime syrien que l'aviation russe appuie dans la région d'Idleb. Mais lors de son point de presse aux côtés de M. Macron, Vladimir Poutine a d'emblée rejeté l'arrêt de l'offensive d'Idleb. Le travail contre les terroristes de l'État islamique sera poursuivi jusqu'à sa fin, a même lancé le président russe. Marie-Christine Bonzon pour Vatican News.
Des centaines d'associations sociales luttent contre l'exclusion dans le monde. C'est ce travail qui est au cœur d'un ouvrage publié par la librairie éditrice Vatican et préfacé par le pape François. Pour le pape, ceux qui vivent dans les périphéries territoriales et existentielles sont un semis, une branche qui, comme le grain de moutarde, portera beaucoup de fruits parce qu'il les conçoit comme le levain d'une grande transformation sociale. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, retour de l'information en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure française. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.